musicale, pas pire pantoute.
95.5 FM, c'est Félix.
J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et finances où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
Et nous sommes chaque jeudi midi au rendez-vous, bien sûr, pour l'émission Logement 1 droit. Aujourd'hui, en ce 19 février 2026, et notre première demi-heure, on la passe avec des gens engagés, des gens qui n'ont pas peur de leurs idées. Marie-Anita, bonjour.
Bonjour, Alain.
De Solidarité Populaire Estrie.
Oui, oui, encore à Solidarité Populaire Estrie, ça bouge, là.
Ça bouge, on va voir ça, justement. Et peut-être pour situer, des fois, quelqu'un ouvre la radio et il dit, bon, parce que là, on s'assure, on ne parlera pas des Olympiques. Là. Alors, qui voudrait, qui dit, c'est quoi ça? Je suis sûr qu'il y a encore des gens qui ne savent pas c'est quoi.
Ben oui, fait que ça fait plaisir de souligner que Solidarité Populaire Estrie, dans le fond, on est né d'une belle alliance entre le milieu communautaire, syndical, étudiant, féministe et de Solidarité Internationale. Il y a plus de 35 ans de cela. Donc, on est une alliance en Estrie mobilisée pour la justice sociale. On met en commun nos idées, nos rêves, nos envies d'action pour un changement social qui axé sur le besoin du monde, sur ce qu'on a envie là, comme société juste.
Et souvent, ce que je rappelle, c'est qu'une des rares régions, d'ailleurs, où ce type de réunion d'un milieu vraiment là, disparate, on peut dire là, différent, mais qui s'unissent pour la même cause, c'est quand même quelque chose aussi. Là.
Oui, c'est quelque chose d'inspirant, je pense. Je me rends compte quand on va justement dans d'autres régions puis qu'on parle du regroupement Solidarité Populaire Estrie, souvent les groupes se disent « Mon Dieu, c'est donc bien une bonne idée, ça, comme alliance. » Puis on aime se rappeler, il y a eu une époque qu'il y en a eu des Solidarités Populaires Estrie à travers le Québec. Pas Estrie, là, mais des Solidarités Populaires.
Il y avait SPQ, la Solidarité Populaire Québec, qui était à travers le Québec, mais malheureusement, parfois c'est ça qui est difficile de garder.
Hein? Et il en reste encore deux. À part Solidarité Populaire Estrie, là, il y en a un au Saguenay.
OK.
Puis il y en a un aussi dans le Haut-Yamaska-Richelieu. Donc, deux autres là, avec des alliances. Oui.
Des résistantes.
Oui.
On va parler de différentes choses, évidemment, qui s'en viennent. On va commencer par demain. Il annonce beau.
Oui, hey, la fin de février, il fait beau. Oh, c'est le fun, on est content dans ce temps-là.
Oui, parce qu'on va parler d'autres manifs. Il y en a un d'entre eux qui faisait... Comme disait l'autre, il faisait frette. Mais parlons de demain, parce qu'évidemment, il y a actuellement, là, on parle de la justice sociale. Donc, à travers, c'est une journée internationale de la justice sociale. Donc, c'est pas juste à Sherbrooke, là.
Non, c'est pas juste à Sherbrooke, c'est vraiment une journée internationale pour la justice sociale et on se mobilise, on a comme tradition de se mobiliser là, à chaque année autour d'une action ou activité d'éducation populaire là, pour parler de justice sociale avec les groupes, mais avec aussi tout le monde là, qui sont sensibles à ces enjeux-là.
Alors demain, donc, il y a deux activités, dont une un peu très visible. Alors on invite les gens justement demain, en fin d'après-midi.
Oui, exactement. Ben il y a à Sherbrooke. Ben demain, nous on répond là, Solidarité Populaire à Estrie à l'appel de la coalition Main Rouge. Donc la thématique c'est ça suffit le saccage du filet social. Okay. Et on organise ici à Sherbrooke donc une activité dérangeante, mais dérangeante de visibilité et d'éducation populaire.
C'est ça. Donc il y a personne qui va, oui. qui pourra pas rentrer chez eux là. Puis ça.
Donc c'est ça. Non, il y a rien. Mais
c'est important la visibilité. Hein?
Oui. Puis la visibilité, ça peut être dérangeant, tout dépendant où est-ce qu'on est visible.
Puis à cette heure-là, là, ça King, là, c'est bon.
Oui, c'est ça. On va se rejoindre proche de King Jacques-Cartier. En fait, tu sais, à ce coin-là, il y a plusieurs banques, compagnies d'assurance, il y a une épicerie, il y a un Dollarama. Donc, on a choisi ce lieu-là parce qu'on le trouvait symbolique de l'écart des richesses.
Et effectivement, entre le Dollarama puis les banques comme telles. Parce qu'on parle justement du saccage du filet social. Écoute, là, on disait tout à l'heure, ça va bien. Oui, quand j'écoute pas de nouvelles, on regarde présentement. On n'ira pas voir M. Trump aux États-Unis, là. Il s'en occupe très bien là-bas. Mais ici, là, Margarita, c'est quand même encore là, plein de choses qui sont. Notre filet social est saccagé. Puis de quelle façon?
Oui, absolument. Puis on le voit hein, à travers justement les mobilisations des groupes là, depuis déjà plusieurs années. Là, les mobilisations sont grandissantes. Que ça soit pour sur la question de la santé, nos hôpitaux, les conditions de travail des travailleuses et travailleurs dans nos services publics, nos écoles là, qui sont importantes, les conditions de travail encore là au niveau de l'enseignement, au niveau donc tout ce côté-là, mais aussi le problématique aussi au niveau de nos groupes communautaires d'action communautaire autonome, la question du financement qui nous précarise d'année en année parce que le financement est nous on est en défense collective des droits dans notre secteur là du communautaire, on n'a pas d'indexation par exemple. Donc il y a vraiment des enjeux de financement réels puis des besoins qui sont grandissants de la population. Faut se rappeler que justement tous ces milieux-là, hein, du milieu communautaire, milieu syndical, étudiant, on est là pour défendre les droits des travailleurs travailleuses, mais aussi les droits humains là de la population. Fait que nous, on voit qu'il y a une augmentation de la précarité du monde, la misère à se nourrir, à se loger, précarité aussi au niveau du travail. Le monde qui travaille au salaire minimum à temps plein, ben ils sont quand même en situation de pauvreté.
Exactement.
Donc il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'il y a de plus en plus, il y a bien du monde qu'on oublie dans société qu'on laisse derrière. Puis quand je dis « on », je parle pas, ça l'exclut. la personne qui parle en sens...
Non, tu n'es pas responsable de ça. C'était toi qui étais première ministre, peut-être que ça sera autrement. Mais il reste, c'est ça. Le filet social, encore actuellement, là, les hôpitaux là, qui tombent en décrépitude, c'est parce que dans les hôpitaux, il y a des gens malades. Puis quand la salle d'opération, l'eau coule, c'est carrément... Là, les écoles, la même chose. Puis justement, les groupes communautaires. Et ça n'attire pas non plus des jeunes, par exemple, qui finiraient l'université, le travail social, d'aller travailler dans un milieu communautaire, là.
Oui, c'est un réel défi, hein, justement, de trouver des nouvelles personnes qui viennent travailler dans le milieu communautaire. C'est pas parce que le cœur y est pas ou parce qu'on trouve pas que la mission est pas... parce que la mission, elle est très, très importante. Hein. C'est des missions qui sont ancrées dans les communautés. Ça veut dire que ça émane du besoin qui a été ciblé par le monde, la population, qui ont créé des groupes communautaires. Il y a déjà des dizaines, des générations de cela.
C'est ça.
C'est sûr que les donc il y a vraiment des besoins, là... à ce niveau-là, puis...
on est plus... c'est plus des militantes et des militants que des employés, que des fonctionnaires de la pauvreté, exactement.
Oui, bien, c'est ça, il y a un peu des deux, puis je pense que les gens... Ben, par contre, tu sais, vraiment, dans le milieu communautaire, il y a aussi beaucoup de personnes en stage, quand même, là, qui sont là, tu sais, il y a quand même un intérêt, mais c'est sûr que il faut faire connaître plus ces missions-là, parce que dans la société, je pense qu'on axe beaucoup sur une perspective plus économique, hein, plus que de... puis c'est normal, là, on a besoin de manger puis de se loger, mais de valoriser plus l'implication sociale, même dans nos sphères de travail, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est sûr que il y a le monde qui sont là, on a beaucoup de cœur puis beaucoup envie de changement, mais des fois, il y a les besoins économiques qui fait que on peut pas rester ou faut trouver des alternatives ou avoir plus qu'un emploi en même temps. Donc, ça crée des beaux défis de mobilisation.
Et toi, dans ton expérience, tu as été dans d'autres groupes comme tel. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir vers ces groupes communautaires-là, justement? C'est déjà de l'engagement peut-être dans les familles ou des gens qui t'ont motivé?
Mm-hmm. Bien, écoute, moi, je suis dans la mobilisation sociale, je pense, depuis le cégep, là.
OK.
Donc, ça fait un bon bout de temps. Puis ce qui m'avait motivé à l'époque, là, c'est la grève des prêts et bourses, les 103 millions. Il y en a peut-être qui s'en souviennent. Ça commence à faire un bout de temps au début.
En 2005, parce que, je me souviens, moi, c'est ça, ça avait brassé pas mal quand même. Puis et avant 2012 qu'on a connu.
Oui, c'est ça, et avant 2012 aussi. Mais ce qui avait été beau dans ces mobilisations-là étudiantes, c'était justement de voir la solidarité qu'il y avait avec les différents autres milieux de la société. Puis même à ce moment-là, au cégep, dans le, on avait un comité mobilisation, puis ça existe encore, là, le comité,
oui.
Différents types de comités, mais on avait des liens avec l'extérieur aussi. On avait d'ailleurs des liens à ce moment-là. Moi, j'étais au cégep de Sherbrooke, on avait des liens avec Solidarité Populaire Estrie, à l'époque, qui nous appuyait, qui nous appelait.
Tu savais pas qu'un jour, tu serais assise là.
Non, c'est ça. Donc, la boucle se poursuit, mais donc, je pense que c'est à travers toutes ces rencontres-là, ces luttes, les expériences de lutte concrètes aussi, hein, il y a des défis de mobilisation. Le contexte est difficile, mais à travers ça, il y a aussi du beau dans les liens qui se créent, dans les amitiés politiques qui se créent. Puis ça, c'est quelque chose qui nous suit tout au long de notre vie. Puis qu'après, on se retrouve à différents moments. Puis donc, on se rend compte qu'on est un réseau très vaste, finalement, en mobilisation sociale. Il y a différents moments, des fois d'intensité, des fois un peu moins, mais le réseau, il est là quand même, puis il est prêt à se mobiliser. Puis on le voit là, dans les dernières années, là, qu'il y a une augmentation des mobilisations là, assez importante là, dans plein de milieux.
C'est ça, grâce à des gouvernements comme ça, là, ça aide la mobilisation, que ce soit au fédéral ou provincial, comme tel, il n'y a pas un qui... Et puis justement, là, le 2 février, il y avait une amorce du jour de marmotte qui nous amène justement, puis ça, d'ailleurs dans les prochains jours, il y a des comités qui vont travailler là-dessus. On parle de grève sociale.
Oui, la grève sociale, en route vers la grève sociale pour le 1er et 2 mai prochain. Donc, c'est une campagne qu'on a partie, qu'on a votée à notre Assemblée générale des membres de Solidarité populaire Estrie là, en novembre dernier, devant le constat des attaques sur plein de fronts, là, que ça soit justement au niveau de la santé, l'éducation, que ça soit donc au niveau des groupes communautaires. Ben, on trouvait une nécessité d'essayer d'appeler à une convergence de toutes nos luttes, de toutes nos campagnes, nos revendications pour 2 jours d'action politique intense. L'action politique, c'est oui de l'action, ça peut être dans les rues, mais de l'action aussi, c'est les liens qu'on tisse, c'est les discussions qu'on a, c'est de bâtir notre mouvement parce qu'on n'a pas, je pense qu'on n'a pas fini de se mobiliser.
Non.
Mais pour le 1er 2 mai, on vise, c'est ça, on est dans une campagne de grève sociale. Donc, grève sociale, ça veut dire que c'est pas juste les groupes, c'est pas juste... Oui, c'est les groupes, oui, c'est les salariés, les membres, mais c'est le monde aussi, les citoyens et citoyennes.
Et puis déjà, ben, le 2 février, on voyait quand même qu'il y avait un intérêt comme tel, puis là, il faut vraiment mobiliser ces 2 journées-là, et surtout que là, dans quelques mois, il y a des élections. Ben oui,
on s'en sort pas. Ça finit toujours par un peu par mettre le ton à notre agenda, si on veut, hein, ça, les élections. Même si entre les élections, on resterait mobilisé, c'est sûr que ça devient ça donne le rythme là, à certaines mobilisations sociales ou revendications pendant les élections qui s'en viennent.
Donc c'est sûr que puis oui. Avec des nouveaux chefs, des nouvelles chefs ou nouveaux chefs, là, ben, aussi le Parti libéral a un nouveau chef, ben, la CAQ au mois d'avril va avoir... quelqu'un. une ou un.
Oui, c'est ça. Puis nous, tu sais, dans le fond, ce qu'on se rend compte en mobilisation, quand on est en mouvement social, mobilisation sociale, c'est que peu importe le gouvernement qui est là, peu importe le chef qui est là, l'important pour une démocratie vivante, c'est des mouvements sociaux qui sont forts,
exactement,
qui sont vivants. On est pour être capable de faire face aux tempêtes, de peu importe le gouvernement qui nous met une tempête d'en face.
Alors donc, on se prépare pour ça. Dans d'autres actions qui ont eu lieu, entre autres, mardi soir, il y a évidemment, et ça évidemment, Solidarité populaire Estrie travaille là-dessus aussi, l'armement, le HICE, puis
oui.
Tout ça. Donc, le mardi, il y avait une belle mobilisation qui s'est passée justement. Tu as participé à cette mobilisation-là?
Oui, c'est une belle mobilisation qui a eu lieu, oui, ici à Sherbrooke, mais aussi ailleurs. Là,
oui, dans plusieurs villes.
À plusieurs villes.
On parlait de plusieurs villes, même, on parlait de Rimouski, du Saguenay, Rouyn-Noranda, Québec, Montréal, et même à Yellowknife, et en Atlantique, en Ontario, Colombie-Britannique. Hein?
Oui, c'est ça. C'est
quand même, là, c'est quand même pas, là, tu sais. Ça, entre autres, le but de cette manif-là était vraiment face à tout ce qui est l'armement comme tel.
Oui. Mais tu sais, on se rend compte avec de plus en plus, en tout cas, il y a plusieurs, pas juste des études, des recherches, là, mais concrètement, on voit des politiques qui sont mises en place qu'on ne sait pas, mais on est en train, on finance encore de l'armement qui va aller poursuivre le génocide en Palestine, ou encore de l'armement, ou aussi de du partage d'expertise, si on veut, dans ce domaine-là, avec ICE, donc la police de l'immigration aux États-Unis. Et étaient sortis, justement, dans les dernières semaines, les fonds publics qui ont été accordés à l'entreprise Garda World, une entreprise québécoise.
Quand même.
On sait, là, il y a des personnes qui travaillent là-dedans, mais l'enjeu, c'est vraiment l'entreprise en tant que telle qui collabore avec ce qu'on appelle Alligator Alcatraz, là, qui est
s'entend, tu sais, que c'est quand même, tu sais, une collaboration assez machiavélique, là. Hein?
Oui, c'est grave. C'est l'endroit où est-ce que actuellement sont envoyés par centaines et centaines des personnes migrantes aux États-Unis qui vont peut-être éventuellement être déportées, mais en attendant, c'est très obscur ce qui se passe je sais pas, on appelle ça une prison, là, mais c'est quelque chose qui a été monté rapidement.
Prison est un bien grand mot. Il y a des niches pour les chiens qui sont plus belles que ça. Là.
C'est ça, il y a quand même eu des espèces de rapports préliminaires, là, d'organisations internationales qui dénoncent déjà les conditions de détention qui sont complètement inhumaines, humiliantes, qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique des humains qui sont là. Donc, vraiment, là, on est à un autre niveau. Là. Donc, de réaliser qu'on a des entreprises québécoises qui reçoivent des fonds publics pour aller collaborer avec la police de l'immigration aux États-Unis qui commet des crimes au niveau humain.
C'est simplement la liberté, la liberté absolument. Point. Là, juste ça. Puis, il y a le général Danemec aussi qui avait été dénoncé, puis qui, je pense encore, n'a pas cessé ses activités non plus. Là.
Non, c'est ça, des compagnies d'armement militaire qu'on a ici là, au Québec, dont un bureau aussi à Sherbrooke, mais il y en a aussi une usine de fabrication à Repentigny. Ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est qu'actuellement, malgré que le gouvernement fédéral a dit qu'il a mis fin à l'exportation des armes, c'est qu'il existe, on va dire, des failles. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui s'appelle pour mettre fin aux failles.
C-233,
merci. Puis, dans le fond, c'est qu'il existe des failles dans la législation qui fait qu'on peut quand même produire certaines pièces d'armement qui vont transiter aux États-Unis, puis là-bas, ça va être assemblé, puis ensuite, ça va être envoyé, en Israël, par exemple, et utilisé aussi, donc, pour des fins militaires sur lesquelles on n'a aucun droit de regard ou quoi que ce soit. Donc, on utilise des ressources québécoises encore aujourd'hui.
Et c'est pour ça, donc, quand on parle de ce projet de loi C-233, qui était présenté à la Chambre des communes.
Oui, qui a été présenté à la Chambre des communes. Donc, il y a une pétition qui circule encore actuellement en ligne là pour demander, entre autres ici à Sherbrooke, à la députée Élisabeth Desbrières de prendre position.
Qui a fini à un moment donné par rencontrer le groupe comme tel, là. Sherbrooke-Gaza, ça a pris un petit peu de temps, mais...
Oui, semble-t-il qu'ils ont eu une rencontre non à venir, mais Sherbrooke-Gaza, c'est ça, des belles mobilisations depuis plusieurs années, des belles mobilisations, mais dans un contexte toujours aussi autant d'urgence, puis qu'à force de faire de la pression, ils ont fini par réussir au moins minimalement rencontrer Elisabeth Briard, mais le groupe n'attend pas après les rencontres pour se mobiliser, par contre.
Non, c'est ça, là, je pense qu'il y a aussi, là, il faut vraiment, parce que, puis surtout intéressant que donc la campagne de courriel, là, comme telle, parce qu'il reste que ça n'a pas de bon sens, puis justement, le mot faille, c'est « Ah, on n'en fait plus, mais c'est ça. » Fait que c'est ça, on passe, comme on dit, on contourne la loi.
Oui, puis c'est grave, c'est contourner la loi, mais puis ça a des impacts humains très concrets, mais ça en termes de droits humains, puis ça respecte pas du tout les engagements, justement, il y a entre qu'est-ce qu'on dit publiquement, puis finalement, qu'est-ce qui se passe derrière, entre les lignes, là, il devrait pas y avoir de décalage, là, entre ça.
Et aussi, ben, on voit, évidemment, le premier ministre Carney aime beaucoup les soldats. Je sais pas si dans sa jeunesse, il était cadet, lui, là, mais il joue au hockey. Il a déjà joué au hockey. Mais il reste qu'actuellement aussi l'argent qui est acheminé pour l'armement. On va créer un troisième manège militaire dans la Sherbrooke. On répare, on investit beaucoup là-dedans. Ça aussi, c'est quand même dangereux un petit peu, là.
Oui, ici au Canada, on a de plus en plus d'investissements dans le militaire, mais aussi à l'échelle mondiale. Il y a vraiment une course à l'armement qui est actuellement en cours, qui est vraiment préoccupante. Puis puis en même temps, un des discours des fois qu'on nous sert au Canada, puis je veux quand même le mentionner, on va nous dire ben ça va créer de l'emploi.
Ben oui.
On va utiliser les ressources canadiennes, on va créer de l'emploi. Mais saviez-vous que chaque dollar qu'on met pour créer de l'emploi dans le militaire, si on mettait ce même dollar-là dans nos services publics, on créerait beaucoup plus d'emplois. Parce que c'est
des... Oui, c'est parce qu'il va créer des emplois, bien sûr. Là, M. Carney, il va prendre des emplois. Ben oui, mais justement, cet argent-là qui est mis pourrait être mis effectivement ailleurs. C'est bon de le dire, mais il faut se le rappeler parce que ça paraît bien. Hein? Ça peut faire qu'il y a un amour inconditionnel des soldats. Lui, puis on n'a rien contre ça. Ça prend des militaires quelque part, mais pas non plus s'en aller dans trop de choses.
Oui, nous, c'est vraiment la question d'une économie, justement, qui se base sur l'armement, qui met de côté de plus en plus. On va dire qu'on investit beaucoup dans nos programmes sociaux puis les services publics, mais c'est pas à ça que devrait servir le trésor collectif pour c'est nos services publics, programmes sociaux. Nous, c'est vraiment cet accent-là qu'on veut mettre de l'avant, cet argent-là investi dans le militaire. Puis aussi, selon un agenda qui n'est pas le nôtre, qui a été imposé de l'extérieur, c'est pas... Concrètement, c'est les États-Unis là, qui tout le monde se plie d'une certaine façon devant les États-Unis, dont promettent de dépenser des milliards de dollars supplémentaires. Là,
non, c'est ça aussi l'autre problème aussi. Fait que donc, évidemment, il y a une autre action. Tu sais, je me dis justement la mobilisation qui s'est faite. Puis t'es même dans le journal de Sherbrooke la semaine dernière, Marianetta. On peut te plus voir. une autre belle mobilisation, puis Solidarité populaire Estrie, le comité aussi racisme et discrimination a participé sur le PEC. Ça aussi, on va y aller. On a parlé de fédéral au provincial. Il y a des têtes dures. On regarde avec la Constitution, avec Jolin Barrette, là, qui mène ça comme... Il appelle ça consulter, puis il dit... Qu'est-ce que vous pensez? Il ferme le micro, puis la même chose se fait aussi au niveau du programme d'expérience québécoise aussi.
Oui, ça là, le programme d'expérience québécoise, hein, c'est dénoncé, donc on appelle les orphelins du PEC, les personnes immigrantes qui sont venues au Québec avec des promesses là, au niveau de l'expérience québécoise en vue d'atteindre, de pouvoir accéder à une résidence permanente. Là. Puis il y a eu une grosse mobilisation à Sherbrooke, mais il y en a constamment. C'est vraiment un des enjeux qui, actuellement... Il y a des appuis de toutes parts de la société. Là. Tu sais, quand le patronat s'accorde avec les groupes en immigration, puis s'accorde avec les élus, c'est parce que ça ne fonctionne pas, cette...
Quand Marinita est à côté de la mairesse, là, puis au top là, tu sais, non, mais tu sais, il reste que les maires, on parle du nom des municipalités, la fédération des municipalités, tout là.
Oui.
C'est quand même...
Absolument, puis j'aimerais souligner, parce qu'on s'en souvient peut-être pas, mais il y a quelques années... Il me semble, il y a 3-4 ans, il y avait déjà eu des mobilisations par rapport au PEC, hein, parce qu'il y avait déjà eu une réforme importante qui avait eu lieu au PEC, qui avait été dénoncée par beaucoup de groupes, où est-ce qu'on avait retiré une catégorie de travailleurs-travailleuses sur la possibilité de participer au PEC, et c'était les travailleurs-travailleuses qu'on juge les moins qualifiés, je ne dis pas qu'ils ne sont pas qualifiés, mais dans le terme là, utilisé, par exemple, toutes les personnes qui travaillent, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans des trucs plus manuels, on les avait retirés, il y avait eu des mobilisations à ce moment-là aussi. Pas autant d'envergure, il n'y avait pas eu autant d'appui de toutes parts, mais je veux quand même souligner que c'est... Donc, le PEC, c'est une deuxième attaque. Là, il a été carrément aboli. Là, à ce moment-là, il avait été réformé, mais déjà, on disait que c'est une injustice parce qu'on mettait en dehors de ce programme-là plein de gens qu'on a jugés comme étant nos anges gardiens, des personnes essentielles pendant la pandémie. Et on s'en souvient, ce discours-là, c'était important. C'est important de le souligner parce que c'est vrai.
Il a perdu leurs ailes tout d'un coup. Là.
Oui.
Il était moins gentil.
Donc, dans cette deuxième phase d'attaque du PEC, qui est là, l'abolition complète, là, il y a vraiment... il y a une alliance au niveau dans la société là, contre un gouvernement.
Et c'est intéressant, comme dit, là, encore là, le 7 février, c'était pas juste à Sherbrooke, il y en avait partout dans le Québec. Puis nos dimanches soirs étaient occupés à ces rencontres-là, où il y avait vraiment là, partout dans le Québec, dans des grandes villes comme Montréal, Québec, bien sûr, mais aussi les plus petites villes, il y avait vraiment là... Puis le témoignage, là, j'ai reçu ici justement Sabrina Philippon, qui est justement un exemple vivant là, de ça, là, deux fois qu'ils vont la chercher en France. Et, viens, c'est le fun, t'sais, mais après ça, il reste que c'est épouvantable. Puis je pense qu'actuellement, là, la mobilisation, puis je pense que Solidarité populaire Estrie a participé aussi à ça, à cause de ce désir justement de justice.
Oui. Puis ça montre justement cette alliance-là qui s'est faite, dans le fond, la mobilisation là, qu'il y a eu pour le PEC, c'était mis de l'avant par le Québec, c'est nous aussi, qui est une organisation qui est par et pour des personnes migrantes travailleuses, qui se sont mobilisées, qui ont appelé aux manifestations. Ici, en Estrie, on a fait cette belle rencontre-là, justement, avec Sabrina, avec Mélissa, du Québec, c'est nous aussi. Grâce à un relais d'information de la CSN, qui nous a dit, ben, c'est là que ça qui s'en vient, on suit cette piste-là, on se rencontre, on s'organise avec le comité raciste discrimination systémique, hein, Alain. On est une belle gang, Michel aussi à Réplique Estrie.
Et puis Henri aussi.
Puis Henri, la Fédération des communautés culturelles. Donc, on avait déjà cet enjeu-là à l'œil. On s'était dit, là, à notre première rencontre, on s'était dit, on veut suivre ça, puis on veut trouver une façon de s'impliquer, mais c'est arrivé. Là, on a eu une belle collaboration, belle implication de toute la ville à Sherbrooke. Là, oui.
Alors, c'était un beau succès. Donc, on rappelle demain, on sort nos pancartes. Oui. La population peut participer, là.
Absolument. C'est ouvert à tout le monde. Donc, on se réunit à peu près environ devant le Dolorama vers 15h30, là, au coin King Jacques Cartier. Il y a le Dolorama, je pense, c'est le 1906 King West.
Oui. Puis. Mais pas loin de Jacques Cartier, là.
Oui, pas loin de Jacques Cartier. Puis, il va y avoir une activité d'éducation populaire et de visibilité. L'éducation populaire, on va parler de la question des corps des richesses à travers l'accumulation des richesses dans le patrimoine. Donc, on va aborder la question des richesses du 1%. Puis, comment est-ce qu'on pourrait amener des propositions audacieuse pour redistribuer les richesses plutôt que de penser à couper dans les programmes de services sociaux, bien, allons chercher là où les richesses s'accumulent.
Merci beaucoup, Marie-Anita, d'être passée. D'ailleurs, il y a une page Facebook, on peut suivre.
Oui, Solidarité populaire Estrie.
Et puis découvrir tout ça.
Puis, si vous voulez lire la déclaration de grève sociale aussi, c'est Solidarité populaire Estrie, / déclaration. Solidaritépopularestrie.org/déclaration. On vous invite à lire ça. C'est une belle déclaration commune qui a été travaillée par plusieurs groupes là, pour appeler à la grève sociale le 1er 2 mai 2026.
On va se mettre dans l'esprit avec les Cowboys fringants, la manifestation.
Ah, un bon
classique. Et peut-être aussi, je n'ai pas fait au début, mais je me dois de le faire aussi. Fait que si vous m'appelez, là, ça ne donne pas rien là, au téléphone. mais c'est ça, la radio, hein, c'est... Communautaire, on est à la fois téléphoniste ou autre chose, mais là, vous pouvez pas. Alors, donc, peut-être rappeler qu'on est sur un territoire non cédé. Et ça, je pense aussi, Solidarité populaire Estrie travaille beaucoup là-dessus aussi.
Oui, c'est important. On est sur le Ndakina de la Confédération Wabanaki. Donc, c'est important de le reconnaître parce que nos sociétés sont basées sur des injustices, des inégalités profondes qui naissent du colonialisme, du racisme, du patriarcat. Et à tous les jours, on essaie d'être en action pour transformer ça puis pour essayer de renouer des liens qui sont sur une base solidaire.
Fait que la manifestation, c'est parti. Et demain, d'ailleurs, dans une journée pas moins froide que le 6 février.
Oui!
En musique!
Arrivés en Westphalia, criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux filles poilues en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales. Et la mince foule grelottait en ce froid jeudi de printemps. Et aux étudiants qui boxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Mais on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système. Et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes sous de ninja cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché 2-3 pétards. Les bus sont rentrés dans le tas. Je jure qu'ils ont pas payé tard. À la manifestation, on rêvait de révolution.
cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Mais là, ça a dégénéré, car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danseton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac, pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus-le-Christ de stopper l'injustice. On entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, ben étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease en version hillbilly. Quand le ciel s'est déchaîné, il s'est mis à tomber des clous, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Et ce fut terminé, pas qu'on est rentré déçu, tout mouillé et abattu, en croisant les écolos dans le portique de McDo. J'en suis venu à conclusion, ça va prendre bien du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution.
À la manifestation, c'est vrai qu'on n'a rien changé. On a posé un bouchon de circulation, ça fait toujours bien ça.
Il est midi
30 minutes.
Puis c'est beau la ville les mardis de 18h à 20h avec les rendez-vous du Country Centre-Ville. Une émission peu pire pantoute, animée par Alain Roy depuis 1998. Le meilleur du country d'ici, les mardis de 18h à 20h sur le 95.5 FM, aussi sur le site internet de CFLX où on retrouve l'émission en rediffusion. Et suivez notre page Facebook comme plus de 4000 personnes. Merci d'accepter ce rendez-vous du Country Centre-Ville.
D'ouvrir la porte.
Amateurs de rock et des styles musicaux qui s'y rattachent, ne manquez pas Le Rock et ses racines. Le mercredi de 16h à 18h et en reprise le jeudi de 22h à minuit, c'est Le Rock et ses racines. Animé par Patrice Desmarais, c'est pas pire pantoute, sur les ondes de CFLX, la vraie radio rock en Estrie.
Gagner 1000 $ par semaine à vie, ça sonne comme le premier café de la journée qui coule lentement. Ça sonne comme un bon roman qu'on est incapable de fermer. Ou comme un vendredi soir où le 5 à 7 se tire tard. Ça sonne comme la neige qui fond lentement au printemps ou comme une vague qui se brise sur la plage. Gagner 1000 $ par semaine à vie grâce au billet à gratter gagnant à vie de Loto-Québec, ça sonne vraiment bien. 18 ans et plus.
C'est Félix. Pas pire, la radio country.
Oui, là, vous entendez pas du country, parce que des fois, évidemment, vous avez entendu l'annonce comme telle. J'ai bien sûr, depuis 28 ans, au mois de mai, ça fait 28 ans que j'anime Rendez-vous du country, qui est devenu Rendez-vous du country centre-ville, pour des raisons là, qu'il y avait à peu près... À un moment donné, il y avait 3-4 émissions qui s'appelaient Rendez-vous Country. On va être correct. On va lui donner un autre nom, surtout qu'on est au centre-ville comme tel, et les gens du country, fait qu'évidemment. Mais là, on parle pas de country, on parle, mais plus tard, ben, avec l'émission, j'ai remplacé souvent, puis j'ai eu l'émission du matin. À l'époque, on avait une émission du matin, là, comme tel. Émission du retour le midi, de retour le soir. Bon, alors donc, une autre époque. Donc, ben, j'ai toujours eu le goût de la politique, toujours eu le goût de l'histoire du Québec et d'ailleurs aussi, parce qu'on comprend beaucoup mieux quand on comprend l'histoire, parce que ce qui arrive aujourd'hui, ça s'explique parce qu'il est arrivé avant. C'est ça qui est ça. Fait que donc, voilà, donc, qu'on se retrouve à l'émission Logement et droit. Merci à Marie-Anita. On rappelle bien sûr demain cette mobilisation-là. Puis je pense que c'est ça, des fois, les gens disent, ça donne-tu quelque chose? Oui, ça donne que ça brosse un peu. On a pu voir avec le PEC, justement, avec la mobilisation du 7 février. Il y a, comme je vous dis, là, les groupes communautaires, qui des fois, on est taxé d'être un petit peu à gauche ou des chialeux, puis des chialeuses, ben, il y a finalement des gens du patronat, puis des gens des maires et mairesses, puis tout ça. Fait que donc, puis aussi chambres de commerce, puis tout ça. les syndicats embarqués ici, entre autres, parce que touchant, bien sûr, toute la partie aussi santé, qui déjà aussi a de la misère. Recruter du monde, la même chose dans les garderies, tout ça, avec le gouvernement. Actuellement, c'est drôle parce que là, on attend qu'il y ait un chef ou une cheftaine dans tout ça. Fait que c'est pour ça que là, on va voir ce que ça va donner comme tel. Et justement, il y avait l'annonce qui parlait de gagner en vie, tout ça, mais bon, toute la sécurité, mais là, il n'y a pas tout le monde qui gagne en vie, hein? Et un rapport de l'Institut de la statistique du Québec, c'est dans la presse d'aujourd'hui, comme tel. Et on parle, puis évidemment, on le redit, ça s'appelle pas logement un droit pour rien, hein, que des centaines de milliers de Québécois ont vécu de l'itinérance ou des évictions. Et donc, des ménagements forcés au cours de leur vie. C'est un rapport, donc, qui vient quand même, c'est sérieux, hein, qui a été publié, donc, hier, mercredi, de l'Institut de la statistique du Québec, le ISQ. Alors, c'est dans la presse aujourd'hui, c'est aussi sur la page du regroupement du Frappru, comme tel. Alors, de nouvelles données de cet institut, donc, donnent un aperçu de l'insécurité résidentielle qui prévaut avec la crise du logement et celle de l'inabordabilité. C'est dur à dire, mais et c'est toujours là, comme tel. C'est pour ça qu'il y a une émission qui existe. C'est pour ça qu'il y a des groupes qui militent pour le droit au logement. Derrière ces données se cache le dur constat du manque d'alternatives pour les ménages qui veulent améliorer leurs conditions de logement et ceux et celles qui subissent des déménagements forcés et dont la situation se détériore. Ça prend plus de logements sociaux sur différentes formes. Et, c'est le fun dans cet article-là, ils disent le mot « logements sociaux ». Là, des fois, je sors un petit peu dans mon affaire, parce que souvent aussi, on dit « logement abordable ». Hein? Puis, ça veut dire quoi, ça? « Abordable »,« abordable », hein? « Logements sociaux ». Donc, il ne faut pas avoir peur de dire ce mot-là, ça fait pas mal. Hein? Ça peut même se dire en anglais. Hein? Là, ça... Social housing. Dans cet extrait, donc, on dit que dans 9 % des ménages, la personne de référence a vécu au moins une période d'itinérance au cours de sa vie. Puis, et on a rappelé souvent aussi que l'itinérance touche. Il y a eu une étude, justement, on l'a rappelé l'autre jour quand j'ai reçu Samantha et aussi Marie-Lou de ma cabane, avec qui on va développer bientôt aussi une collaboration avec des personnes. Et usagers et usagères de ce magnifique engagement, ben que ça guette non seulement dans les grandes villes, mais au Saint-François, là, c'est pas Montréal, là, hein? C'est même pas Sherbrooke. Et il y a des personnes en risque d'itinérance. Donc, des ménages, la personne de référence a vécu au moins une période d'itinérance au cours de sa vie, révèle toujours cet institut-là. Produit à partir des données de l'enquête canadienne sur le logement de 2022, quand même, parce qu'évidemment, les statistiques se font toujours à partir de l'année passée, évidemment, comme telle, mais je pense bien que ça s'améliore pas plus. Hein? Les causes les plus souvent mentionnées sont les problèmes relationnels ou interpersonnels, 45 % et les problèmes financiers à 36 % De plus, environ 5 % des ménages de la province ont déjà été contraints de déménager d'un logement loué, ajoute le rapport. Le principal motif de l'éviction est la reprise du logement par le propriétaire pour un usage personnel évoqué dans 40 % des cas. Donc, la fameuse reprise de logement, des gens, là, moi, évidemment, comme je vous dis, j'étais 16 ans intervenant à l'association locataire, les gens arrivaient, le propriétaire veut reprendre le logement. Bon, pour lui, bon, ça, c'est pas toujours, parce que s'il vit dans une grosse... dans une belle résidence, il s'en ira pas dans un 4,5 d'un gros bloc appartement, là, mais parfois, il y a plusieurs petites passes. Donc, on parle de, pour usage personnel, et puis comme je vous dis, là, normalement, la personne reçoit ça, et elle peut toujours refuser comme tel, mais il reste que c'est quand quelqu'un reçoit et qui habite ce logement, et puis j'ai vu, moi, une personne, à un moment donné, qui habitait depuis 42 ans. Ça veut dire qu'elle avait habité avec ses parents. Ses parents sont morts, elle a gardé le logement. Et 42 ans plus tard, on lui dit, « Bon, là, j'ai un besoin de logement pour quelqu'un de ma famille. » Bon, ça peut être louable, vous allez me dire, là, mais cette madame-là, là, Je ne trouvais pas drôle du tout l'accompagner dans ça. Puis on a fini par au moins obtenir des compensations qui n'enlèvent pas quand même toute la peine de quitter le quartier qu'elle a habité comme tel et tous les souvenirs aussi. En 2021, le Québec comptait 3 749 035 ménages. Les données selon lesquelles Sophie, donc, sont reliées entre 2017 et 2022. Comme vous dites, c'est toujours à partir, évidemment, de données comme telles. Donc, et déjà, comme je vous dis, là, les conséquences de déménagement, on parle de 187 000 ménages, là. Donc, ces résultats, dit le Frappru, sont énormes. Puisque c'est, donc, pour Véronique Laflamme, qui est porte-parole du Frappru, pour elle, ces données illustrent une fois de plus l'urgence de renforcer les protections législatives pour les locataires, qui sont confrontés à des hausses salées. Et on sait actuellement, là, on me disait où c'est l'association locataire, là, l'activité, le même mercredi le 25, c'est annulé, là, il n'y avait pas assez d'inscriptions. Mais par contre, si vous êtes locataire et vous voulez avoir du support pour recevoir votre avis d'augmentation, il y a toujours moyen d'appeler 819-791-1541 ou écrire à locataire 1@commercialvideodrome.ca comme tel pour aller justement demander des renseignements parce que sont peut-être moins grosses que l'année passée, mais parfois il y a des chiffres là, qui apparaissent puis qui sont pas faciles. Donc évidemment, vous avez toujours le droit de refuser ça. Hein? Vous avez 30 jours. Alors, on revient là-dessus, donc, un marché où beaucoup d'options sont trop chères. Quelqu'un, l'autre jour, la dame que j'avais rencontrée l'autre mercredi, elle dit, le propriétaire m'a dit, mais madame, là, vous avez un 4,5, vous êtes seule, ben, vous en avez 3,5, mais ce qu'il voulait dire, ben, va-t'en, moi, quand tu vas être parti, je vais leur louer le 4,5 énormément plus cher. Bon. Alors donc évidemment, malgré tous les signaux d'alarme, on a l'impression que le gouvernement n'a pas adapté ses politiques et qu'il ne prend pas ça au sérieux. D'ailleurs, le Frappru, depuis quelque temps, a essayé de rencontrer la nouvelle ministre de l'Habitation, Caroline Proulx, qui est là depuis octobre, évidemment, les deux précédentes surtout. Et puis le karma lui est revenu là, au Saguenay. Madame comme telle qui voulait être mairesse, puis finalement l'a pas été. Puis il y a aussi là, d'autres. Donc, il y a eu tout un saccage là-dedans, les rides de ça. Mais est-ce que puis il reste quelques mois à ce gouvernement-là, fait qu'on verra bien. Là. Donc, ce qui était au moins pratique, il y a eu en 2024 un moratoire de 3 ans sur les évictions pour subdivision, agrandissement et pour changer d'affectation. Mais c'est pas 3 ans. Là, en 2024, 2027, là, ça va survenir. Parmi les ménages qui ont déménagé, les motifs principaux comprennent l'obtention d'un logement de meilleure qualité ou le désir de devenir propriétaire. Donc, en cette période d'avis de hausse de loyer, bien, on rappelle que les locataires peuvent refuser les propositions d'augmentation et les négocier, eux qui souvent ne connaissent pas leurs droits à cet effet. Et ça, c'est important comme tel. Puis il y a de beaux témoignages comme tel. Toujours là-dedans, on vient puis sur Ménassène. Évidemment, il y a un sujet. Il ne pensait jamais cette cité des retraités de l'Estrie, qui est un OBNL qui a été fondé et qui vraiment avait cette idée de donner à des personnes aînées, personne vieillissante, comme dirait l'autre, vraiment un milieu de vie, parce que si vous voyez, vous passez là, près de la rivière Saint-François, c'est magnifique, près du Ménassène, justement. Mais, évidemment, c'est toute la saga. Et il y avait quand même cet article aussi, là, que, puis d'ailleurs, Maître Fortier m'a envoyé le lien aussi, qui est l'avocat qui a défendu, qui défend encore cette cause-là. Et l'analyse aussi qui a été faite par Thomas Dehaye, de Radio-Canada. Comment les 5 administrateurs du Faubourg Ménassène, accusés de fraude, ont-ils réussi à s'approprier les 19 millions, quand même, on parle pas de 3-4 piastres, là, les 19 millions de dollars des immeubles à logement pour aînés Radio-Canada a épluché des dizaines de documents internes qui permettent de retracer le fil des événements et leur stratégie. Dans ces documents, on constate que les cinq administrateurs ont planifié la dissolution de l'organisme pendant des mois pour s'approprier les fonds, notamment en sollicitant les différentes choses comme telles. L'un des défis était de contourner une règle normalement applicable pour les organismes à but non lucratif au Québec, qui stipule qu'en cas de dissolution, tous les biens qui restent doivent être distribués à d'autres organismes qui poursuivent une mission similaire. Donc, un contournement, là. L'argent de la vente aurait dû donc être remis à un organisme pour soutenir le logement abordable en Estrie, sans être empoché par les administrateurs. Puis Thomas Léa, c'est un journaliste très sérieux, là, Radio-Canada, quand il arrive avec des faits, là, il ne s'est pas basé sur n'importe quoi. Cette obligation est normalement inscrite dans des lettres patentes des OBNL, qui est un document légal obligatoire, une clause que les administrateurs sont parvenus à abroger. Comment s'y sont-ils pris? Il faut rappeler que l'organisme a été fondé en 1976. Il n'a pas toujours été administré par cinq personnes. En 1978, l'OBNL a même modifié ses règles pour passer de 3 à 15 administrateurs. En plus des administrateurs, l'organisme comptait plusieurs membres qui étaient convoqués lors de l'Assemblée générale, qui avait notamment pour mandat d'élire les membres du conseil d'administration. À noter que le locataire du Faubourg n'était pas automatiquement membre de l'organisme, il devait en faire la demande et figurer au registre. L'organisme avait, sur papier, du moins, une réelle vie associative. Celle-ci semble toutefois s'être effritée dans le temps. On voit ça, là. Par exemple, en 2016, les membres du conseil d'administration décident de ne plus fixer un nombre de réunions minimum avec les membres de l'organisme. En 2018, l'organisme a produit de nouvelles lettres patentes supplémentaires et réduit le nombre d'administrateurs de 15 à 5. Ce sont les cinq administrateurs restants qui ont été arrêtés par l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, Serge Dubois, Michel Fortin, Patrick Fortin, Jocelyn Morissette et René Saint-Amand. Membres et administrateurs en même temps, dans les derniers moments d'existence de l'organisme, au moment de la vente, les cinq administrateurs étaient les seuls membres de l'organisme. Une modification au statut et règlement en 2022 ajoutait comme condition d'admission au statut de membre d'accepter d'être aussi nommé administrateur. En d'autres mots, le statut de membre et celui d'administrateur devenant en quelque sorte indissociables. Un sixième membre qui n'a pas voulu être administrateur, Rénal Bélanger, a démissionné avant la vente de l'immeuble parce qu'il se sentait plus à l'aise quand il ne se sentait plus à l'aise avec les cinq membres du CA, surtout Serge Dubois, selon sa déclaration sous serment. Donc, j'invente rien, c'est dans l'article, là, publié par Radio-Canada et par aussi Thomas Deshaies. Rénal Bélanger allait qu'il n'avait pas été informé des intentions des administrateurs de vendre l'immeuble du Faubourg Menassen. Il affirme que ceux-ci auraient tenté de l'inviter à devenir membre du CA, ce qu'il a refusé. Les cinq membres du CA ne voulaient pas m'accorder, dit M. Bélanger, là, un délai de réflexion raisonnable et m'incitaient à remettre ma démission en tant que membre du Faubourg, peut-on lire dans sa déclaration. À la suite de la démission de M. Bélanger, les cinq administrateurs ont donc pu planifier, à l'abri des regards, la vente de l'immeuble sans que les locataires en soient informés. Sur du texte, c'est assez épouvantable. Puis moi, j'ai rencontré, j'ai suivi aussi, mais avec l'association locataire qui était très, très présente et encore l'est aussi, entre autres Mario Mercier, quoi, qui suit ce dossier-là. Moi, je suis allé être invité à des rencontres aussi. On peut voir la détresse de ces personnes-là, le short du texte, là, mais aussi la mobilisation. Ils n'ont pas lâché comme tel. Alors, ils ont planifié donc à l'abri de tout ça, donc, et bien sûr, locataire, puisque aucun locataire n'était membre de l'organisme, il n'était pas invité aux assemblées. Les cinq administrateurs étaient les seuls présents dans les réunions du conseil d'administration ou les assemblées générales des membres. Un avis juridique qui pave la voie. En 2020, l'administrateur Serge Dubois soumet une série de questions à l'avocat Paul Martel, reconnu pour être une sommité dans le milieu juridique, afin d'obtenir un avis sur une possible dissolution de l'organisme. Donc, on parle de 2020, là. Il demande notamment quels membres peuvent recevoir une part des biens de Ménassène, dans quelle proportion et s'il y a un possible conflit d'intérêts. Maître Martel explique dans son avis juridique, dont les conclusions sont contestées actuellement, bien sûr, dans une cause judiciaire, que selon lui, la redistribution de l'argent de la vente peut être effectuée entre les membres, mais non entre les administrateurs. La décision de modifier les lettres patentes, de dissoudre et de liquider Ménassène sera prise par ses membres et non par ses administrateurs à ce titre. Il n'y a par conséquent pas d'enjeu relatif aux devoirs et obligations des administrateurs, écrit-il. Donc, les membres ont toutefois, sont toutefois aussi des administrateurs. Ils jouent donc les deux rôles. Ce qu'on rappelle qu'il est là, il est âgé 5. Hein? L'orientation éphémère et retrait de l'obligation de redonner les fonds. Donc, en mars 2022, les cinq administrateurs adoptent de nouvelles lettres patentes pour changer le nom de l'organisme. Ils se nomment davantage, donnent à l'avant l'orientation éphémère. Et l'adresse sera celle du bureau de l'avocat Serge Dubois au cabinet Monty Sylvestre à Sherbrooke. Bon. Au même moment, l'obligation de distribuer des biens restants à d'autres organismes en cas de dissolution est abrogée. Évidemment, parce qu'on se souvient, là, ça devait être donné à d'autres organismes qui œuvrent dans le logement abordable, permettant aux administrateurs de rendre possible l'appropriation des fonds, une manœuvre qui avait été proposée dans l'avis juridique de Paul Martel. Les cinq administrateurs tiennent une rencontre le 1er mars 2022, lors de laquelle ils décident de fermer l'organisme et de répartir l'actif en, cinq parts égales aux membres, soit à eux-mêmes. 4 avril 2022. L'avis d'intention de dissolution de l'organisme est publié dans le journal Le Devoir. Tu te souviens, là? C'était à Sherbrooke, les gens regardaient. Hein? Oui. Bon. La diffusion de cet avis dans un journal est une obligation légale. Le lendemain, la dissolution est officialisée. Et de là que, depuis 2022, donc, évidemment, que ce combat-là se fait. Pardon. La légalité de la démarche mise en doute. La légalité de la démarche, toutefois, mise en cause par l'avocat Frédéric Antoine Lemieux, qui représente les organismes à but non lucratif d'habitation. Selon lui, ce sont bel et bien les administrateurs et non les membres qui ont pris la décision de dissoudre l'organisme. Les administrateurs seraient donc dans le tort, selon les prétentions, car ils avaient une obligation morale de protéger l'organisme. Radio-Canada a pu constater que les membres ont adopté une résolution pour autoriser les administrateurs à dissoudre l'organisme. Ces administrateurs ont ensuite adopté leur propre résolution le même jour pour aller de l'avant. Le fait pour les membres de prendre une résolution non conforme au droit n'oblige pas les administrateurs à prendre la même décision. Il faut se rappeler que les membres sont aussi des administrateurs. On rappelle ça, hein? Et que dans les deux résolutions ont été prises la même journée, selon Maître Lemieux. Maître Lemieux va d'ailleurs plus loin en alléguant que Maître Paul Martel est dans l'erreur dans son avis juridique. Les membres n'auraient pas pu, comme le proposait, prendre la décision de dissoudre l'organisme comme tel. Alors, vous voyez, donc, les procédures demain, qui s'est faites depuis 2022, et entre autres, en septembre 2022, on salue le travail de Maître Louis Fortier. L'avocat Louis Fortier a déposé une demande pour exercer une action collective. Il réclame l'annulation de la vente et des réparations pour les préjudices subis par les locataires. En janvier 2024, celle-ci a été autorisée par la Cour. Donc, la poursuite menée par les OBNL d'habitation. Donc, en octobre 2022, l'avocat, donc, Lemieux, enclenche les procédures judiciaires au nom des habitations d'équerre aussi, comme telles. Donc, en mai 2024, Louis Fortier dépose une demande d'autorisation pour exercer une action dérivée, notamment afin de faire annuler l'action de vente et l'acte de dissolution. Le 9 décembre 2024, le juge Martin F. Sheehan, Cour supérieure, annule la dissolution de l'organisme à but non lucratif Faubourg Ménassène. 10 janvier 2025, les ex-administrateurs s'adressent à la Cour d'appel pour contester certains aspects de la procédure, dont l'annulation, bien sûr, de la dissolution de l'organisme. Et le 10 octobre 2025, la Cour d'appel a rejeté. Bon, comme, donc, depuis ce temps-là, le 10 décembre 2025, l'unité permanente anticorruption a arrêté les cinq administrateurs comme tels, et il va y avoir des suites, tout ça, comme tel. Ben, vous voyez, c'est quand même quelque chose, là, on va regarder ça. vraiment assez épouvantable. Et d'ailleurs, c'est sur comme tel, sur différentes pages comme tel. Rappelez quelques actions qui s'en viennent. Entre autres, j'ai reçu dernièrement Ousmane Thiam et aussi Annabelle Bertillon. Et deux activités qui restent pour ce qu'on appelle le cadre du OFF, mois de l'histoire des Noirs à Sherbrooke. Donc, ce soir, c'est du côté de l'Université de Sherbrooke, à compter de 17h30, conférence-discussion, colonialité des corps, université et mémoire. Donc, c'est gratuit. C'est au pavillon A5 de l'Université de Sherbrooke, le hall d'entrée. Et aussi, une autre activité, c'est le dernier samedi, de toute façon, c'est le 28 février. Il n'y en a pas plus que ça, comme tel. Donc, c'est un samedi aussi, en après-midi. Ça se fait au, sur la rue... aussi, pas Élisée Poirier, mais je cherche l'autre, là. 187 Laurier, je le cherchais, fin de l'émission. 187 Laurier. Alors, suivez ça, je mets ça sur différentes pages. Et aussi, donc, dans, justement, face à toutes ces injustices face aux personnes comme telles. Alors, on se doit d'être là. Donc, ce soir, je vais citer, on se donne rendez-vous aussi demain pour, justement, là, aller de ce côté-là. Ben, on va s'asseoir avec une petite pièce hein, de mes amis, d'ailleurs, qui reviennent chaque deux semaines avec... j'aime bien la petite chanson Mario, là, qu'ils m'ont apporté, qui va compléter cette édition. Je vous laisse à la programmation comme telle, qui est musicale, bien sûr, même si l'annonce de sur notre page parle de notre émission, là, qui n'existe plus depuis deux ans au moins. Alors donc, mais celle-là continue d'exister, Logement et droit, puis je vous reviens jeudi prochain, justement, entre autres, avec nos amis du Cheap. Bonne journée, et on se retrouve jeudi prochain.
Hey les blaireaux, on vote pour Mario, Mario Day, U-C-O-N-T-M-A! Si j'étais un morpion, j'aurais ma maison dans les pantalons de Mario Dumont. Si j'étais un pou, j'aurais mon igloo sur la caboche du député de Rivière-du-Loup. Mais comme je ne suis qu'un vulgaire trou de cul, je dois me contenter d'être candidat de l'ADQ. Ça prend à peu près pas de qualification pour faire partie de l'équipe de Mario Dumont. Aucune compétence précise n'est requise, sinon que de savoir dire oui au chef du parti, de la bolle de l'école au sniffeux de colle, tout le monde peut danser le twist des sons des kiss. Mario, Mario, tu n'es pas drôle, tu n'es pas beau, tu es mal barré, vraiment tu n'as rien pour toi, Mario. Tu n'as pas la cote des intentions de vote, tu n'as même pas de groupie pour tirer ta botte, tu n'as pas de pot de vin pour acheter l'électorat, tu n'as pas beaucoup de moyens sauf parmi tes candidats. Hier au soir j'ai fait de l'acide, j'étais loin d'être lucide, je croyais que j'étais un poteau de l'hydro et qu'on plantait à coups de marteau à travers ma peau un des écriteaux électoraux de Mario. Quel triste scénario pour un piteux poteau. Des bourreaux à la retraite aux anciens nazis, Mario ne refuse personne dans son parti. Tu rêves d'avoir ta face sur tous les poteaux, tu veux qu'on parle de toi dans les journaux locaux. Tu n'es pas drôle, tu n'es pas beau, tu es tout désigné pour l'équipe de Mario. Dans longtemps, tu sais qu'on aura plus de déficit quand Bouchard sera mort et que j'en restera pas fort. Il y aura encore toi, toi Mario, on n'est pas à veille de plus voir ta face une autre poteau. On dit que, oh yeah, on dit que, tout le monde ensemble, on dit que, alright, on dit que, tu n'es pas drôle, tu n'es pas beau. Ave Mario. Oh!
Il est midi
58 minutes.
Envie de fraîcheur, de saveur méditerranéenne et d'un vrai voyage gourmand, à Sherbrooke, une seule adresse, Super Pita, 651 rue Queen Est. Ici, tout est préparé sur place chaque jour. Poulet mariné, brochettes savoureuses, falafel croustillant, gyros généreux et bien sûr les meilleurs chips grecs en ville. Découvrez aussi notre spécial du jour à seulement $14,99, toujours frais, toujours savoureux, toujours aussi abordable. Bonne nouvelle, pour les étudiants, un menu à seulement $12,99, rapide, copieux et délicieux. à l'achat d'une assiette régulière, recevez des super puffs gratuits, des délicieux bouchées sucrées croustillants et gourmands, le véritable dessert qui fait parler en ville. Dépêchez-vous, les offres sont d'une durée limitée. Super Pita au 651 rue King S à Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Google Maps, DoorDash, Uber Eats. Super Pita, le goût méditerranéen et la fraîcheur à chaque bouchée. Numéro de téléphone 819-823-1753. Commande téléphonique acceptée.
Vous êtes-vous déjà demandé où va votre argent chaque mois? Il peut sembler compliqué de gérer votre argent. Heureusement, ABC Questions d'argent offre un programme d'introduction aux connaissances financières gratuit à tous ceux qui souhaitent gagner en confiance financière. Apprenez davantage sur des sujets spécifiques comme le calendrier des dépenses, le magasinage intelligent, emprunter de l'argent et les façons d'épargner. Mieux comprendre la gestion de votre argent est plus facile que vous ne le pensez. Commencez gratuitement aujourd'hui. Pour une meilleure gestion de votre argent, veuillez visiter questionsd'argent.ca.
Conditions actuelles, -3 degrés.